Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Le 4 mars 2012, Philippe, 48 ans, PDG d'une PME de la Loire, est retrouvé mort avec 3 balles dans le corps sur un petit chemin boisé du massif du Pilat. Parti de rien, le chef d'entreprise était un autodidacte dynamique. Il avait créé une entreprise d'encadrement de fenêtres qui marchait très bien. En quelques années, elle était passée de 2 à 50 salariés. Philippe travaillait beaucoup, roulait en Porsche, portait des Santiago en crocodile et collectionnait les maîtresses. Les enquêteurs privilégient d'abord la piste d'un mari jaloux, mais c'est la secrétaire du patron qui se rend à la gendarmerie et avoue le meurtre. Bettina a 43 ans, elle déclare avoir agi pour motif professionnel, le stress au travail, la pression, les difficultés de gestion. Au procès, son avocat plaide le burn-out. Bettina avait tout investi dans son aventure professionnelle avec Philippe. Ils étaient les 2 premiers salariés de la société, ils avaient partagé l'excitation des débuts, les galères, les angoisses. Un duo fusionnel et selon les clichés consacrés, la secrétaire était rapidement devenue la maîtresse du patron. Mais avec la réussite flamboyante de la société, Philippe s'était peu à peu entouré d'une équipe dirigeante plus qualifiée. Bettina n'était plus le bras droit irremplaçable. Entre eux, il ne restait qu'une proximité physique, se résumant à des demandes de fellation rapide entre 2 points sur la comptabilité. Bettina a été condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. Le jour de son réquisitoire, le procureur a résumé « c'est l'histoire d'une ambition personnelle déçue ». Tout de suite dans les pieds sur terre, ce sont d'autres histoires de secrétaires et de patrons, de vie passée ensemble au bureau, entre la photocopieuse et le paraffeur, de couples dialectiques, de domination et de dépendance. Des petites manies où le professionnel dérape sur la sphère intime, 4 histoires racontées par Delphine Dilly.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis venue te demander quelque chose. Tu n'aurais pas du travail pour moi?
Tu quittes ta place?
Non, mais j'ai pas l'impression que je vais y rester très longtemps. Tu sais, j'ai été secrétaire 6 mois à New York. Je tape très bien à la machine, tu veux que je te montre? Je parle aussi anglais couramment et un peu d'espagnol.
Très bien.
Beaucoup de chance parce que je suis très très bien tombée la première fois. Je suis tombée dans une petite entreprise qui faisait du matériel de conditionnement à une époque où c'était pas encore très les shampoings DOP, le lait en pack. Enfin, c'était tout à fait le début avec un patron qui était un aventurier exceptionnel qui avait été un héros de la guerre de 40 en étant, il était aviateur dans l'escadrille Normandie-Niemen. Enfin, c'était un type absolument avec qui je me suis très très bien entendue, qui d'ailleurs très rapidement a trouvé qui m'a doublé mon salaire, qui était modeste parce qu'il trouvait que voilà, j'avais les compétences nécessaires. 68 est arrivé. Presque naturellement, j'ai occupé l'usine avec les ouvriers. L'entreprise ne marchait plus tellement bien, enfin, etc. Donc, ce type exceptionnel m'a dit, bon, essayez de trouver autre chose. Donc, après le départ de cette première expérience, je suis rentrée, en fait, dans une grande entreprise de travaux publics. Je travaillais avec une seule personne, qui était tout à fait sympathique, avec qui je m'entendais très, très bien. Il était ingénieur, c'est lui qui calculait quand il y avait un marché. Donc c'est comme ça que ça fonctionnait dans les travaux publics. On calcule le coût réel du marché. Il y a 4 ou 5 entreprises de travaux publics. Donc un coup c'était Bouygues, on décide que c'est Bouygues. Un jour on décide que c'est la traite, etc. Donc il y a quelqu'un qui calcule le coût réel. Il y en a un qui se met en dessous et les autres qui se mettent au-dessus. Et voilà, c'était ça. Et je travaillais avec ce type qui m'appréciait énormément. D'ailleurs, il était venu, j'habitais encore l'appartement en dessous, déjeuner, dîner chez moi, enfin, on était très copains. Il m'appelait Elisabeth et moi je l'appelais Monsieur Jaume. Et un jour il m'avait dit, Elisabeth, ça vous ennuierait, très poli, de faire du café. Et je lui ai dit, mais bien sûr Roger, pas de problème. Et il m'avait regardé. Je veux dire, je lui ai dit, vous ne trouvez pas anormal que vous m'appeliez Elisabeth et que moi je ne vous appelle pas Roger? Pour montrer le ridicule des situations, on était sans doute du même milieu, on s'entendait très bien, on aimait les mêmes films, enfin, etc. On fait presque un couple avec son patron. Quand on est secrétaire, il y a une sorte d'intimité qui s'installe. Voilà, on fonctionne à deux, donc le patron qui est un homme et la secrétaire qui est une femme. Donc c'est pour ça que je dis, on est comme un couple. On est tout le temps ensemble. La plupart du temps, les secrétaires sont plus avec leur patron qu'avec leur mari. C'est une profession très très particulière. Pour la première fois dans les travaux publics, ce qui est rarissime, les ouvriers sont mis en grève. Maltraités, mal payés, qui travaillaient dans des conditions physiques, c'est très très dur hein, de faire les routes, le bitume, enfin, etc. Moi, ils se mettent en grève, voilà, quand des ouvriers se mettent en grève, je me mets en grève. Voilà. Dans un premier temps, on a essayé de me marginaliser. On ne pouvait pas me renvoyer pour faute de fait de grève, c'est illégal. Donc, on m'a marginalisé. C'est-à-dire, d'un seul coup, le problème était que comme ce poste que j'occupais était en fait extrêmement important, ils se sont imaginés que comme j'avais fait grève, j'allais dévoiler le système des marchés. Or, pas du tout. Je n'aurais absolument rien dévoilé. Mais ils ont pris panique, donc ils se sont dit, on peut pas la renvoyer, faut qu'elle parle d'elle-même. Donc, à la fois, on faisait plus rien faire que des photocopies, des trucs stupides, aller porter des plis d'un service à l'autre. Et le directeur m'a dit, il serait plus raisonnable que vous partiez. D'ailleurs, mon pauvre patron direct, lui, il en a fait une dépression. Lui, il était dans un état, mais on l'obligeait à me faire faire des conneries. Et à ce moment-là, un ami m'a dit, écoute, un ami qui travaillait, lui, dans une imprimerie chez Del Duca, à Maison Alfort, m'a dit, on cherche quelqu'un pour être secrétaire du comité d'entreprise. Donc je suis partie à Maison Alfort, donc ça a été mon troisième employeur, où là ça a été très bien. Et au bout d'un moment, j'en ai quand même eu marre de cette pression en fait. Et j'en ai eu marre justement d'être secrétaire, de cette profession un peu malmenée, parce qu'à la fois on est très exigeant, mais c'est très flou, enfin, etc. Il y a eu une opportunité de formation pour aller dans la production. Et j'ai fait un an de formation et je suis rentrée en atelier. Et là, effectivement, ma vie a changé parce que c'était autre chose. D'abord, j'étais payée comme les hommes et j'étais considérée pareil sur mes compétences techniques. Pour moi, ça a été une révélation.
Allô? Ah non, elle est partie déjeuner. Bah, je sais pas, normalement elle devrait être rentrée. Quittez pas. La voilà. Martine, c'est pour vous.
Merci. Allô?
Ah Fabienne, je suis de retour à 3h.
Sculpture, les pieds sur terre.
J'ai travaillé pendant 4 ans dans une entreprise en tant qu'assistante export, mais j'ai démarré en tant que réceptionniste pour le patron de cette boîte. Je pensais surtout que ça allait bien se passer parce que c'était un homme respectable. C'est un chef d'entreprise qui en impose. Il a une démarche un peu de cow-boy. Il a aussi beaucoup d'influence américaine et suisse. Et c'est quelqu'un de grand, qui fume le cigare et qui, de toute façon, par sa présence, signifie vraiment sa position sociale de chef d'entreprise et de businessman. La plupart du temps, il s'adressait à moi en m'appelant Miss. De manière plutôt sympathique, toujours à demander si j'allais bien, si tout se passait bien dans l'entreprise. Ce qui était dans mon contrat, c'était tout simplement de répondre au téléphone, d'établir de la facturation et de faire l'accueil des rendez-vous et des clients. Et aussi de faire des cafés, tout simplement. Mais très vite, il a demandé à ce que, éventuellement, je pouvais réceptionner un canapé pour lui ou passer commande pour sa maison. On pouvait même être amené à aller arroser ses plantes pendant ses vacances. Et effectivement, mon collègue, lui, a été amené à l'emmener à l'aéroport avec la voiture personnelle, qui était une grosse cylindrée façon Porsche. Il l'a emmené à l'aéroport pour ne pas que la voiture dorme sur le parking pendant plusieurs jours. Sur le moment, on accepte, on ne sait pas trop. En définitive, après tout, ça vient de plus haut, donc c'est pas dégradant de commander un canapé pour son patron. Mais c'est vrai qu'on se rend vite compte que ça sort quand même du cadre de nos fonctions. Et sur le moment, on était un peu récompensés. Et hors de ça, on avait nos petits cadeaux parce qu'il n'était pas avare de remerciements. Il appréciait quand même qu'on lui rende ses services. J'ai eu du parfum, j'ai eu des chocolats. Mon collègue, il a eu du champagne. Voilà, ça, ces petits cadeaux et ces remerciements atténuent sur le moment... pas la colère, mais le questionnement de se dire « mais non, mais je suis pas payé pour ça, je dois pas faire ça pour vous, ça sort de mon travail ». Dans tous ces métiers d'assistanat, réception, accueil, on reste de toute façon la maman du bureau qui va aller commander les biscuits pour le petit déjeuner, c'est toujours moi. Qui a des problèmes informatiques, ben on va me demander à moi de régler ces problèmes-là. Alors je ne suis pas informaticienne, mais dans le caractère des gens, c'est parce qu'on est la personne sur qui on peut compter, en fait, quelque part.
Bonjour. Bonjour Fabienne.
Je suis en retard.
Non, c'est moi qui suis en avance.
Vous voulez que je vous le tape ?
Non merci, je le ferai moi-même. S'il y a trop de fautes, vous le retaperez.
Bon, alors je vais finir le dossier du vin.
Très bien.
Alors, c'était dans un cabinet d'avocat. On m'avait demandé de prendre un poste en tant que secrétaire d'avocat. C'était dans le cadre d'une mission intérim. L'agence m'avait prévenu en me disant « Vous savez, madame, on va vous positionner sur un poste peut-être pas très évident. On a eu beaucoup de personnes sur cette fonction déjà, et assez régulièrement. Mais on pense que vous avez a priori le sens de la diplomatie qu'il faut. Il en faut beaucoup avec ce monsieur. » Alors j'étais flattée dans un premier temps. Je me suis dit « Oh, c'est bien. » Oui, vous êtes polie, il a besoin de quelqu'un de bien éduqué. J'avais l'air de correspondre, a priori. Et le premier jour que je suis arrivé, j'ai vu un homme, alors beaucoup de prestance, assez grand et puis robuste et assez sûr de lui, avec beaucoup de classe. Et je me suis dit, oh, c'est un monsieur, il impressionne, quoi. Il a beaucoup de charisme. Alors j'étais très contente et j'ai pris place sur mon poste de travail qui était juste à côté de son bureau. Et puis c'était un monsieur qui était assez âgé, donc moi j'ai beaucoup de respect pour les personnes plus âgées que moi. Et à l'époque, il avait l'âge d'être mon grand-père déjà. Et puis, il était très exigeant. Alors, je me suis dit, bon, c'est normal, le milieu des avocats, ils sont très carrés, ils sont très exigeants. Et je me rendais compte aussi qu'il était exigeant à un point où ça tournait au caprice, parfois. Quand il voulait quelque chose, c'était tout de suite. Et il fallait pas dire, j'arrive dans une minute, c'était immédiat. Quand il fallait lui chercher un dossier client aux archives, ou... Il m'est arrivé de dire « je finis ma phrase » parce que je notais quelque chose sur un dossier et c'était « vous n'avez pas le temps, c'est maintenant ». Donc, donc on m'avait dit que c'était normal, j'avais été voir la DRH du cabinet, elle m'a dit « oui, vous savez, il a tellement de préoccupations en tête, il gère tellement des dossiers à l'international qui sont très pesants pour lui, il faut que vous puissiez répondre immédiatement ». Je me suis dit, bon, pourquoi pas, tant qu'il reste poli, bon, je veux bien aller vite, mais... Et il s'énervait quand il perdait des dossiers, ça lui arrivait de temps en temps, quand même assez régulièrement. Il avait beaucoup, beaucoup de papiers sur son bureau, étalés partout, sur plusieurs bureaux dans son grand bureau. Et jusqu'à présent, j'avais jamais eu affaire à un énervement de sa part, à mon égard en tout cas. Un jour, il a perdu un dossier... Je ne connaissais pas ce dossier, il avait de multiples dossiers, c'est un dossier que j'avais jamais traité. Il est venu dans mon bureau pour me dire ce que j'avais pu en faire. Je lui ai dit que je venais jamais dans son bureau, que quand il me demandait d'y passer, mais que je n'étais jamais rentrée dans son bureau autrement. Et il ne m'a pas cru. Alors il a commencé à venir dans mon bureau, à fouiller sur mon bureau et à jeter mes affaires par terre, me piétiner dessus. Piétiner sur les papiers et il était très énervé, donc ça m'a fait un peu sourire intérieurement. Je disais, est-ce qu'il n'y a pas une caméra cachée, ou j'étais en train de me dire qu'il y avait peut-être quelque chose de rigolo derrière et que c'était peut-être une mauvais rêve que je faisais. Et il m'a rappelé mon petit neveu 2 semaines plus tôt qui voulait pas avancer et qui était dans la rue et qui piétinait, et pour moi je le voyais aussi petit que mon petit neveu, donc je me suis dit qu'il y avait un petit problème. J'étais figée et je le regardais certainement d'un air glacial, parce que j'ai senti qu'il me regardait bizarrement aussi. Je me sentais très énervée intérieurement et je n'ai rien dit. Je n'ai même pas regardé ce monsieur. Je suis sortie, je me suis dirigée vers la direction des ressources humaines, été voir la responsable et je lui ai dit ce que ce monsieur fait avec moi, je ne l'accepte pas, donc je ne vais pas rester. Alors la DRH a été très surprise, elle me dit « mais c'est une réaction à chaud, je fais à chaud ou à froid, ce sera la même chose, je pense que demain je penserai la même chose, mais par contre si vous avez un peu besoin de temps, je veux bien attendre 2-3 jours, mais vous vous arrangez pour que je ne travaille pas avec lui ». Ça s'est fait, la DRH a trouvé une personne, une jeune femme qui est restée 1 mois, donc ça, c'était pour moi très significatif, hein. On m'avait dit que c'était quelqu'un de compliqué, ça s'est confirmé.
Fabienne, pour le bilan de la Sogicop, hein, n'oubliez pas d'adjoindre au dossier le récapitulatif de l'année 70 à ajouter à celui de l'année 71.
Mais je n'ai pas le récapitulatif 71.
Il doit être dans mon dossier sur le bureau, ou alors peut-être dans le dossier des affaires juridiques, dans l'armoire. Oui, certain, presque. En tout cas, il faut que ce soit prêt cet après-midi. Attendez, peut-être que c'est Gérard qui l'a. Gérard !
Oui ?
Tu as le récapitulatif de la Sogicop pour 70-71, cet effet-là ?
Oui, oui, sur mon bureau.
Ah bah tant mieux. Bon, je m'en vais, je te verrai cet après-midi.
Ah bah très bien, ça m'arrange.
Bien, ben, cet après-midi.
Ouais.
C'était une femme qui était directrice d'une section, dans une société informatique, encore une fois, mais un grand groupe. Très élégante, mais un peu brutale quand elle parlait, très directe, très sèche. Elle était assez masculine, mais très élégante. Mais tout ayant un style assez masculin, les cheveux très courts, et toujours du maquillage, des belles boucles d'oreilles, des beaux bijoux, toujours bronzée, elle allait toujours faire des UV. Voilà, donc on voyait qu'elle prenait soin de sa personne. Dans un premier temps, je l'ai pas trouvé désagréable. Un peu, elle faisait peut-être un peu peur dans le sens où elle était très en avant tout le temps. Alors, quand elle était dans une pièce, personne n'existait. Hein. Elle était très présente, on va dire. Et cette femme, Moi, au départ, j'avais une entente cordiale avec elle. Beaucoup de gens me disaient « elle est dure, elle est tyrannique ». Je trouvais que les vocabulaires étaient très durs à son encontre. Et moi, j'avais plutôt une bonne entente. Je voyais pas trop de problèmes. Tout allait entre elle et moi. Et moi, j'ai commencé à travailler plus tard, au fur et à mesure. Elle me disait « est-ce que vous pouvez rester plus tard ? On a des réunions qui vont se tenir le soir ». Et puis, je travaillais plus tard sans problème. Mais je me suis rendu compte, au bout de 3 mois, que je faisais beaucoup d'heures, pas rémunérées. J'ai fait pas mal d'heures supplémentaires et un jour je me suis dit, je vais aller la voir, je vais lui demander tout simplement d'être soit payée de mes horaires ou soit j'arrête de faire des heures supplémentaires. Et je lui ai dit. Et c'est là que j'ai découvert un visage. En fait, il ne fallait pas résister à cette dame. Elle a commencé à me dire, vous avez beaucoup de chance, notre société vous a ouvert ses portes alors que vous n'avez qu'une licence d'anglais, que vous ne valez pas grand-chose dans le milieu du travail. Donc elle a commencé à être très dégradante, mais j'étais pas très étonnée parce qu'on m'avait prévenu, on m'avait dit, t'as pas eu de conflit avec elle, donc t'as pas de problème. Mais si t'es pas d'accord, tu verras un jour l'autre visage. Et je lui ai dit, ben, écoutez, au moins je ne travaille pas les heures supplémentaires. Elle me dit, de toute façon, je ne compte pas les payer. Je dis, bah, si vous ne comptez pas les payer, ce n'est pas légal, je ne les ferai pas. Et c'était l'époque encore des 39 heures, donc j'étais au moins en 45 heures, 47 heures, payé 39. Et je m'étais dit que finalement, un jour, j'étais plus d'accord. Pourquoi j'accepte ça après tout? Alors je lui dis, bah, écoutez, si vous ne voulez soit aucune des solutions, ni me payer ou que je n'assiste plus aux réunions tardives en semaine, j'en prendrai note et puis j'irai voir ailleurs. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais je pense que vous n'aurez pas de grandes chances de trouver autre chose. Vous savez, ici, on vous a vraiment formé. Comme je vous ai dit, vous n'étiez rien. Et là, en un an, vous avez appris beaucoup de choses, et ça grâce à moi. Je pense que vous avez un peu de reconnaissance à avoir à mon égard. J'étais un peu étonnée, quoi, parce que j'avais l'impression que ce que j'avais appris, c'était pas grâce à elle. Et en fait, elle essayait de mettre une pression de cette façon. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai toujours eu confiance en moi, j'y ai jamais cru en fait. Donc ça me faisait aussi. J'étais pas contente qu'elle me dise ça, mais je rentrais chez moi le soir, je disais non, mais elle est quand même gonflée quoi. Elle a l'air. Soit elle y croit, ou soit c'est une méthode pour faire croire que vous n'êtes pas bon et donc vous sentez obligé de rester avec elle. Sauf que moi ça n'a jamais pris. Donc au bout d'un mois de discussion avec elle, demandant à vraiment être payée de mes heures supplémentaires, j'ai vu qu'il ne se passait rien, et au bout d'un mois, j'ai dit, écoutez, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, ça n'aboutit pas, est-ce que vous allez me payer? Elle me dit non, je viendrai plus le soir aux réunions. Elle me dit oui, mais ça va être une faute. Ce sera pas une faute, j'aurais fait mes horaires, donc j'ai pas de faute si jamais je ne viens pas aux horaires où je suis pas payée. Et je lui ai dit, par contre, si ça devient aussi compliqué, je pense qu'on va s'arrêter vite fait, et que ma démission, vous allez la recevoir dans les 2 jours. Et je dis, pour aller plus vite, je peux même vous la déposer là, d'ici ce soir, je peux la rédiger et vous la recevrez par courrier d'ici 2 jours, par recommandé. Parce que j'étais un peu énervée. Mais je le pensais en même temps. Je pensais pas faire si vite, mais là, mes paroles ont dépassé un peu le temps que je m'accordais. Et je me suis dit, allez, maintenant que je l'ai dit, je vais le faire. Je suis arrivée avec la lettre, je l'ai déposée. Elle m'a dit, reprenez-la, je pense que vous êtes énervée et que vous n'êtes pas sérieuse. Je dis, je suis énervée, mais je suis sérieuse. Donc, je ne pense pas revenir sur ma décision, sauf si demain, il y a un chèque de mes heures supplémentaires. Donc, je suis revenue le lendemain, je lui ai dit, est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que mes heures supplémentaires vont être payées? Elle m'a dit, mais enfin, non, il n'en est pas question, et vous ne revenez pas sur vos décisions. J'ai dit, ah non, non, le choix, c'est dans votre camp, c'est pas dans le mien, madame. Du coup, elle a été étonnée et elle m'a dit « Mais je pense que vous allez avoir beaucoup de mal par la suite, on rentre en crise économique. » Je lui dis « Ne vous faites aucun souci pour moi, par contre je me fais un gros souci pour le turnover dans votre service. Mais je vous souhaite bonne chance. » Pendant longtemps, elle a pu agir comme ça jusqu'au jour où il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont vraiment mises d'accord pour faire des procès tout en même temps. Sur 2-3 ans, elle en a eu des dizaines. Alors qu'elle n'avait jamais rien eu de sa vie. Et je me suis dit, finalement, il suffit qu'une personne commence pour qu'une autre continue. Après, on m'a dit un témoignage, j'ai fait pas de problème. Et d'autres, on s'est tous appelés et on s'est dit, bah, l'union fait la force. Il n'y a que comme ça qu'on peut montrer qui elle est vraiment, puisque ça ne savait pas. travail, là, pendant 6-7 ans, c'était une parenthèse dans ma vie, dans la journée. Ma vraie vie, elle commençait après. Parce que j'ai l'impression de ne pas me réaliser, ou de ne pas concevoir, ou de ne pas créer. Hein. J'ai l'impression plutôt de, voilà, d'exécuter et un peu de subir le système. Alors que je suis plus peut-être... j'aime bien donner mon avis, donc c'est important qu'on me le demande. J'ai l'impression d'être, voilà, de plus exister si on me demande mon avis, forcément, mais je pense que c'est tout le monde. Et même si on ne fait pas ce que je pense, on m'a écouté. C'est important.
C'était Secrétaire et patron, un reportage de Delphine Dilly, réalisé par Perret Le Gras, avec un coup de main de François Connac, et diffusé pour la première fois dans Les Pieds sur Terre le 1er décembre 2015, tandis que Delphine Saltel coordonnait cette émission. L'attachée de production, c'était Sandrine Chaperon, et c'est maintenant Jeanne Delecroix, et notre stagiaire, c'est Camille Richir. Merci à Isabelle, à Elisabeth, à Johanna, à Émilie, à Véronique, à Barbérine, à Jeanne et à Philippine.
Belly dancer, I don't need a true romancer. She can be a diplomat, but I don't need a girl like that. She can be a neurosurgeon if she's doing nothing urgent. What I need's a temporary secretary.